Bonjour à chacun. Nous sommes dans une série d'émissions concernant l'Évangile selon saint Jean, qui est publiée donc Françoise Brenard, Breynart, Jean l'Évangile en filet, édition Parole et Silence. Alors, pourquoi un filet? Eh bien, parce que l'Évangile a été composé de façon à pouvoir faire des méditations en suivant aussi des fils verticaux, transversaux, voulus par l'apôtre Jean dans sa composition. C'est pourquoi nous avons la préface dans ce livre d'un évêque d'Irak qui connaît bien la civilisation orale où l'on pratique ce style de composition. Donc c'est un petit peu plus difficile que les émissions précédentes, mais vous allez comprendre. Il y a 6 fils verticaux. Donc nous allons les appeler A, B, C, D, E, F. Nous commençons par le premier fil, A. Et alors, ce fil possède 8 perles. Une perle, c'est un élément qui est fait pour être appris par cœur et bien mémorisé. Alors, quelles sont les 8 perles? Le baptême de Jésus au Jourdain. Ensuite, on passe tout de suite à la rencontre avec la Samaritaine au bord du puits. Ensuite, la multiplication des pains. Puis le discours de Jésus lors de la fête des tentes, puis la résurrection de Lazare, le lavement des pieds, l'arrestation de Jésus, le tombeau vide le matin de Pâques. C'est un fil transversal. Vous voyez, on a sauté des passages hein, par rapport au récit ordinaire. Ce fil vertical, on va dire, comporte des images qui se répètent, comme par exemple celle de l'eau. L'eau du Jourdain, l'eau du puits de Jacob avec la Samaritaine, l'eau promise à celui qui croit au moment du discours de Jésus lors de la fête des tentes, et puis l'eau du lavement des pieds. Ce fil vertical comporte aussi des mots clés. Nous allons voir le mot prophète. Jésus est le prophète. Il comporte aussi des thèmes sur lequel il serait difficile de faire un enseignement théorique synthétique. Et c'est là que la méditation en fil vertical est géniale. Car en rapprochant des perles, elle permet des méditations profondes, par exemple, sur le fait que Jésus est glorifié dans l'Esprit-Saint. Ce n'est pas facile de faire un enseignement sur Jésus glorifié dans l'Esprit-Saint. Mais avec cette façon de faire, eh bien, on va donner une méditation très simplement, à travers des images et des épisodes. De même, on va donner un enseignement sur Jésus qui nous ouvre un chemin de sainteté. D'ailleurs, le prologue avait annoncé « Parce que la loi a été donnée par la main de Moïse, mais la vérité et la grâce furent par la main de Jésus, le Messie. » Et la première perle, un A, on va dire, mettant en scène Jean-Baptiste. Or, Jean est un prénom qui signifie « Dieu fait grâce ». Cette grâce est celle de l'Esprit-Saint. Jésus est plus grand que Moïse, le prophète. Il sera glorifié dans l'Esprit-Saint. Et les disciples seront immergés par Jésus dans l'Esprit-Saint pour avancer sur le chemin de la sainteté. Et donc, cette première perle donne le ton et les thèmes de ce fil vertical. Commençons. Nous allons commencer avec le thème le plus facile, Jésus le prophète. En Israël, on attend un prophète comme Moïse. Livre du Deutéronome chapitre 18, verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Première perle, Jean-Baptiste. Jean, fils du grand prêtre Zacharie, institue un rite de baptême au guet ou au passage du Jourdain. Ce lieu évoque la sortie d'Égypte, donc Moïse le prophète, et l'entrée en Canaan en traversant le Jourdain à pied sec avec Josué. Jean-Baptiste est un prophète. Il se présente comme la voix qui crie dans le désert, le lieu de la parole. Or, Jésus le dépasse et Jean-Baptiste se dit indigne de dénouer la courroie de sa sandale. Deuxième perle, la Samaritaine. La scène se déroule au puits de Jacob et Jésus promet l'eau vive, comme jadis Jacob, qui, selon le Midrash, roula la pierre du puits, et les eaux jaillirent et se répandirent alentour. Sans doute aussi parce qu'il lui dévoile son état intérieur, la Samaritaine voit en Jésus un prophète. Jean chapitre 4, verset 19. Il y a là une nouvelle allusion à Moïse. En effet, selon la tradition, la sœur de Moïse, Myriam, obtint, durant le long parcours dans le désert, que le peuple assoiffé soit accompagné par un puits source, dans lequel les eaux jaillissent, montent et débordent. Troisième perle, la multiplication des pains. Dans la multiplication des pains, nous sommes Jean chapitre 6. Vous allez deviner. Nous sommes dans le temps de la Pâque. L'épisode se déroule de l'autre côté de la mer de Galilée. Jésus est assis à la montagne. La Pâque, la mer traversée, la montagne, autant de mots-clés de l'épopée de Moïse. Moïse avait donné la manne. Élie avait multiplié la farine. Élisée avait multiplié les pains d'orge. Jésus les dépasse, car ses prophètes invoquaient Dieu. Jésus donne ce pain sans demander, mais simplement en rendant grâce. Jésus ne reproduit pas la geste de Moïse et le don de multiplie les pains. À cette nouveauté du rite eucharistique chrétien, où les oblats seront confiés autant de fois que se multiplieront le monde. Les disciples rassemblent les restes, 12 corbeilles. Il y a de nouveau une mémoire de l'Exode, car lorsque Josué franchit le Jourdain, il établit un mémorial avec 12 pierres. Le chiffre 12 évoque la restauration d'Israël. Ayant vu tout cela, les hommes dirent « Vraiment, celui-ci est le prophète venant pour le monde », c'est-à-dire le prophète annoncé dans le livre du Deutéronome au chapitre 18. Quatrième perle. La référence au prophète comme Moïse continue. Durant la fête des tentes, quand Jésus promet l'eau vive, en s'identifiant au rocher source de l'Exode. Plusieurs, ayant entendu ces paroles, disent « C'est vraiment lui le prophète ». Ensuite, dans la controverse qui s'ensuit, Nicodème cherche à éviter un procès injuste et les pharisiens lui répliquent « Et tu dis, tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète ». Cinquième perle, le grand signe de Jésus sortant Lazare du tombeau est une prophétie de sa propre résurrection. C'est aussi une prophétie de la résurrection de tous les hommes à la fin des temps. Sixième perle. Quand Jésus fait un geste d'esclave en lavant les pieds de ses disciples, il suggère qu'il mourra par un supplice réservé aux esclaves. C'est un geste prophétique. De plus, Jésus révèle l'état intérieur de ses disciples, prophétisant la trahison de l'un et le reniement de l'autre. Septième perle. Jean-Baptiste et Jésus étaient au-delà du gué du Jourdain dans la première perle. Et maintenant, dans la septième, Jésus est au-delà du gué du Cédron. Il y a des références à l'Exode, l'au-delà du gué. Pour un nouvel exode. Jésus défend les siens. Si c'est moi que vous cherchez, cela, laissez-les aller. Il se montre vraiment le bon berger dans la ligne de Moïse. Huitième perle. Le tombeau vide n'est pas encore une apparition du ressuscité. C'est une vision donnée à déchiffrer, à l'instar des visions des prophètes. Et puis, la mort n'a pas retenu Jésus, pas plus que Pharaon n'avait retenu les Hébreux. Donc, nous avons vu qu'il y a un thème dans le premier fil, vertical, le thème que Jésus est le prophète que l'on attendait. Et il est même plus grand que Moïse. Il y a un autre thème dans ce même fil vertical, mais qui est un peu plus mystérieux. Jésus est glorifié dans l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui n'est pas facile à exprimer, mais que Jean va exprimer par ce jeu qui met en relation les perles les unes avec les autres. Recommençons le fil. Première perle, Jean baptise au Jourdain. S'accomplit l'oracle du livre d'Ézéchiel. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je mettrai en vous mon esprit. Il convient de remarquer la déférence de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. La stupeur de Jean-Baptiste rappelle celle de sa mère Élisabeth. En présence de la mère de Jésus, elle fut remplie de l'Esprit Saint et Jean-Baptiste avait bondi dans son sein. Elle s'écria d'une voix forte, liturgique, « Comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur ?» Une telle expérience, méditée en famille, a bien sûr préparé Jean-Baptiste à témoigner de Jésus. « J'ai vu l'Esprit qui descendait des cieux, comme une colombe et qui demeurait sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour que j'immerge dans les eaux, lui m'a dit, « Celui sur lequel tu vois l'Esprit qui descend et qui demeure sur lui, celui-là immerge dans l'Esprit de sainteté. Et moi, j'ai vu et témoigné, celui-ci est Fils de Dieu. » Jésus n'est pas seulement moins, comme pourrait l'être un roi, un prophète ou un prêtre. Il l'immerge dans l'esprit de sainteté, c'est-à-dire qu'il est capable de communiquer l'Esprit Saint. Deuxième perle, la Samaritaine reconnaît en Jésus le Messie. Le Messie, en araméen, a pour racine Machia, qui signifie loin de Dieu, et l'onction est celle de l'Esprit Saint. Troisième perle, Jésus refuse de recevoir des hommes l'onction royale après la multiplication des pains. Jean 6, verset 15. Sa royauté messianique lui vient d'une onction mystérieuse, divine. Quatrième perle. Pendant la fête des tentes, Jésus promit de donner l'eau vive. L'évangéliste ajouta une glose. Or cela, il le dit au sujet de l'Esprit. Qu'allait recevoir cela qui croirait en lui. L'Esprit, en effet, n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit est donc lié à la glorification de Jésus. Et justement, dans les perles suivantes, il va être question de la gloire, de la glorification. Cinquième perle, donc la résurrection de Lazare. L'Esprit Saint est amour et vie. Malgré les menaces contre sa personne, Jésus décide d'aller en Judée, chez Lazare qui est couché. Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Ensuite, il y a un dialogue avec Marthe. Jésus dit, « Qui croit en moi, même s'il est mort, vit, et tout à chacun qui est vivant, et croyant en moi, jamais ne meurt. Crois-tu en cela ? » Marthe lui disait, « Oui, mon Seigneur, je crois que tu es lui, le Messie, le Fils de Dieu, qui vient pour le monde. » Dans le fil vertical, on voit que comme la Samaritaine, Marthe reconnaît en Jésus le Christ Messie qui doit venir. Et comme Jean-Baptiste, elle l'appelle le Fils de Dieu. Sixième perle. Donc la maladie de Lazare était l'occasion pour le Fils de Dieu d'être glorifié. Eh bien, lors du dernier souper, quand Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » La victoire qui est déjà acquise est celle de l'amour. Bien que Jésus connaisse les pensées de Judas, Jésus lui a manifesté l'amour dans l'abaissement du lavement des pieds. Il l'a honoré en lui offrant une bouchée, ultime geste d'amitié, ultime appel de l'amour. Cet amour est gloire, glorification, louange de Dieu. Jusqu'au bout, Jésus n'étant qu'amour, il est le Fils de l'homme innocent qui pourra venir sur les nuées du ciel pour le jugement du monde. Lui seul peut juger parce que lui seul est amour. En Jésus, cette glorification dans l'amour est l'œuvre de l'Esprit Saint. Septième perle, une force émane de Jésus au jardin de Gethsémani. Une force qui est encore un signe de la présence en lui de l'Esprit Saint, le don de force. Cette force se manifeste quand les soldats venus l'arrêter allèrent à reculons et tombèrent à terre. Ils accomplissent le psaume 27, que l'on récite pendant 40 jours avant le Yom Kippour. Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et succombent. Dernière perle. Eh bien, chers auditeurs, les mentions de la gloire dans tout le fil vertical, quatrième, cinquième, sixième perle, nous ont préparé à comprendre que le tombeau vide signifie que la présence de Jésus est désormais glorieuse, non matérielle. Qu'en ont perçu les témoins? Marie-Madeleine cherche le corps de Jésus et elle prévient Pierre. Et Pierre sortit et cet autre disciple, et ils couraient tous les deux. Or ce disciple courut devant Simon et vint le premier à la maison sépulcrale et l'observa, vit les lins étant posés. Quant à entrer, il n'entra pas. Simon donc vint après lui et entra dans la maison sépulcrale et il vit les lins étant posés et le suaire, celui qui serrait sa tête, non pas avec les lins, mais étant roulé et posé à côté en un endroit. Alors entra aussi ce disciple, qui vint le premier à la maison sépulcrale, et il vit et il crut. Le corps de Jésus est passé à travers les linges. S'il est vivant, où est-il? Jean ne se pose pas la question. Il a compris que Jésus est passé dans la gloire. La colombe de l'Esprit-Saint demeure sur lui éternellement. Vous avez vu, vous avez senti, vous avez écouté la cohérence de ce fil vertical. Comme c'est beau. Comme c'est une composition merveilleuse. Un petit bijou. Un bijou. Il y a encore un thème tout aussi délicat. Le chemin de la sainteté. Allez, on recommence. On recommence sur ce thème. Première perle. Voici l'agneau de Dieu, celui qui emporte le péché du monde. La sainteté est d'abord un don, une grâce. L'agneau évoque le bélier pourvu par Dieu à Abraham en substitut du sacrifice d'Isaac, et surtout l'agneau de la Pâque, dont le sang épargne les Hébreux pendant le fléau qui frappe les premiers-nés d'Égypte. De plus, en enlevant le péché du monde, Jésus accomplit le rôle du bouc émissaire le jour du Yom Kippour. Or, une fois que le péché est enlevé, la place est libre pour recevoir l'Esprit-Saint. Justement, Jean-Baptiste dit ensuite, « Celui-là immerge dans l'esprit de sainteté. » Eh bien, justement, le fil vertical va décrire le chemin de la sainteté. L'immersion dans l'Esprit-Saint, c'est l'affaire de toute une vie. Et une telle méditation est importante pour la formation des prêtres qui ont à former des prêtres, qui ont à guider les fidèles sur ce chemin de sainteté. Pardon. Oui, si vous voulez, Jean a formé des prêtres. C'est pour ça qu'il a une composition un peu délicate en filet. Et ce fil vertical, en expliquant le chemin de sainteté, est important pour les prêtres qui ont à guider les fidèles. Deuxième perle, Jésus apprivoise une femme de Samarie en lui demandant de l'eau. Dans le dialogue, il ne ménage pas la vérité. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais avec bonté, il l'amène à l'adoration du Père. Si l'évangéliste détaille autant une rencontre personnelle de Jésus, c'est parce qu'il forme des anciens, des prêtres, des bergers, des maîtresses de maison. Jésus leur offre un modèle, aimer suffisamment les personnes pour leur dire la vérité qui dérange et pour les conduire au sommet de la vie spirituelle, l'adoration du Père. Extraordinaire, quelle pastorale! La scène se déroule en Samarie. Vous savez, en l'an moins 721, la Samarie avait été conquise par l'Assyrie. Sa population avait été déportée au 4-5e et remplacée par cinq peuplades étrangères qui apportèrent leur culte païen. C'est à cette histoire que fait allusion notre récit, quand Jésus précise à son interlocutrice qu'elle a eu cinq maris. La Samarie n'est pas la seule à avoir été infidèle. Le prophète Jérémie s'adressait à la Judée en ces termes: Cieux, soyez-en étonnés, horrifiés, saisis d'une grande épouvante, oracle du Seigneur, car mon peuple a commis deux crimes. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Jérémie chapitre 2, et encore. Et maintenant, à quoi bon partir en Égypte pour boire l'eau du Nil? À quoi bon partir en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Il s'agit des cultes au Baal, sous les arbres verts, ce sont des prostitutions. Et encore Jérémie, on te dit, tes chaussures vont lâcher et tu vas mourir de soif. Et tu réponds, non, laissez-moi, car j'aime les étrangers et je veux courir après eux. Ainsi, le chemin de la sainteté est-il une affaire de soif et de source? Et c'est au puits de Jacob que la femme vient puiser, au lieu de la mémoire de l'alliance. Jésus lui demande de l'eau et la femme s'étonne. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus répond, observez le balancement oral. Tout à chacun qui boit des eaux, en revanche, que moi je lui donne, n'a plus soif pour toujours. Mais ces eaux-là, que moi je lui donne, seront en lui une fontaine d'eau qui jaillisse pour la vie qui est pour toujours. Allez, troisième perle, de la soif, nous passons à la faim, et Jésus donne le pain. Quatrième perle, cette perle commence avec la déclaration de Jésus, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'enfilage est évident. Il y a bien un fil conducteur. Dans le verso suivant, Jésus parle du disciple qui deviendra évangélisateur. Le verbe araméen, rada, que nous traduisons par couler, peut aussi être traduit par l'idée de voyager, accompagner dans un voyage, guider, suivre une tradition ou le processus d'un discours. Quand il dit Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. Jésus parle du disciple qui deviendra évangélisateur. Cet épisode se passe au temple. Or, Ézéchiel a vu jaillir un fleuve d'eau vive de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Un torrent qui assainit, qui abonde de poissons et qui alimente une quantité d'arbres de chaque côté. Il s'agit d'un fleuve qui épure la terre saline pour faire mûrir la vie. Cependant, symbole de ceux qui refusent de croire, ces marais et ces lagunes ne seront pas assainies, ils seront abandonnés au sel. Eh bien, c'est l'arrière-plan biblique des paroles de Jésus. Le croyant participe à l'acte du pardon qui assainit et vivifie. Justement, dans l'épisode suivant, celui de la femme adultère, Jean chapitre 8, versets 1 à 11, qui est une histoire de pardon et de conversion, et qui s'insère bien dans ce fil vertical. Jésus montre ce pardon qui assainit, mais la femme adultère doit collaborer en recevant le pardon et en agissant à son tour par la conversion. Comme Jésus avait dit à la Samaritaine, cet homme n'est pas ton mari, Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Cinquième perle. À Béthanie, donc chez Lazare, Jésus promet, et tout à chacun qui est vivant et croyant en moi, jamais ne meurt. C'est une parole de révélation que l'imagination humaine n'aurait pas pu inventer. Elle contredit l'évidence qui s'offre à nos sens, et qu'Heidegger a résumé en disant que l'homme est un être pour la mort. Eh bien non. Eh bien non. Cette révélation nous appelle à orienter toutes nos intentions et toute notre attention vers le Christ pour y trouver la vie. Et là réside la purification de la racine amère qui nous pousse au péché. Pourquoi est-ce que nous péchons? Par crainte de la mort. Par crainte de la mort, nous sommes égoïstes et orgueilleux. Par crainte de la mort, nous sommes avares et cupides. Par crainte de la mort, nous allons trop vite. Et nous faisons plein de péchés parce que nous allons trop vite. Par crainte de mourir, nous faisons des mensonges. N'ayons pas crainte de mourir. Tout à chacun qui est vivant et croyant en moi, jamais ne meurt, dit Jésus. La résurrection de Lazare, dont la chair était déjà en putréfaction, devient alors un signe pour la résurrection spirituelle des pécheurs, même ceux dont l'âme est devenue putréfiée et malodorante. Leur résurrection advient quand ils accueillent l'Esprit Saint, l'Esprit dont Jésus est oint, puisqu'il est précisément le Messie. Sixième perle, le lavement des pieds. Alors, cette perle va nous donner l'occasion de plusieurs développements intéressants sur le thème du chemin de la sainteté. Nous allons considérer les paroles de Jésus aux douze, puis Simon-Pierre, puis Judas, puis le commandement nouveau. Donc, nous allons passer un certain temps sur cette perle. Alors, les perles s'enchaînent. Le manque de pardon rend malade et pourrit les situations comme un cadavre en putréfaction. Le pardon mutuel, le lavement des pieds, constitue une résurrection, une nouvelle naissance, une reconstruction du bien. À travers deux révélations, Jésus indique l'aboutissement du chemin de la sainteté, la vie bienheureuse, la configuration à Jésus, la vie divine. Première révélation. Amen, amen, je vous le dis. Il n'y a pas de serviteur plus grand que son Seigneur, ni de député plus grand que celui qui m'a envoyé. Si vous connaissez ces choses, bienheureux si vous le faites. Ne dit-on pas que les saints sont d'abord bienheureux? Ensuite, eh bien, Jésus va dire « Qui vous accueille, m'accueille ». Autrement dit, nous serons configurés à Jésus. Alors, le chemin de Simon-Pierre. Pierre, par trois fois, se met au-dessus de son maître. Mais son cœur n'est pas partagé comme l'était celui de Judas. Pierre est entier, il est pur en quelque sorte, et il va retrouver le chemin. La première fois, Pierre résiste à l'abaissement de Jésus. « Toi, me laver les pieds ?» La seconde fois, Pierre refuse de devoir attendre pour éventuellement comprendre. À Jésus qui lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent, mais par la suite tu comprendras », Pierre répond « Non, tu ne me laveras pas les pieds jamais ». Pour le sauver, Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, il n'y a pas de part pour toi avec moi ». Alors, pour ne pas être séparé de Jésus, Pierre accepte. Pierre est sauvé parce que son amour pour Jésus est entier, bien qu'il soit imparfait. Il voudrait alors que Jésus lui lave aussi les mains et la tête. Voilà un cœur entier. Comme pour une purification rituelle, ou comme s'il avait péché. Mais Jésus ne le fait pas, parce que les ablutions ont déjà été faites et que son geste a une autre portée. Il y a une autre allusion. De même que le grand prêtre doit se baigner le jour du Yom Kippour, De même, Pierre doit certainement accepter que Jésus lui lave les pieds. Pierre deviendra-t-il grand prêtre dans la suite de son Seigneur, afin d'obtenir aux hommes, en son nom, le pardon du nouveau Yom Kippour? Pierre se met une troisième fois au-dessus de son maître, et voici comment. Jésus a dit: « Mes fils, je suis avec vous encore un peu, et vous me chercherez. Comme je l'ai dit aux Judéens, là où je vais, vous n'êtes pas capables de venir. À vous aussi, je le dis maintenant. » Pierre n'accepte pas la parole de Jésus, et il veut savoir où Jésus va, pour ne pas en être séparé. Simon Pierre lui disait: « Notre Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit et lui dit: « Là où je vais, tu n'es pas capable maintenant de venir à ma suite. À la fin, néanmoins, tu viendras. » Et Simon Pierre persiste: « Mon Seigneur, pourquoi ne suis-je pas capable de venir à ta suite maintenant? Mon âme, en échange de toi, je la déposerai. » C'est son cœur entier qui parle. Il refuse le délai de séparation, l'agenda divin et la sagesse de cet agenda. Jésus prédit alors son reniement. « Ton âme, en échange de moi, tu la déposerais. Amen, amen, je te le dis. Le coq n'appellera pas jusqu'à ce que tu me renies trois fois. » Pierre échoue à aimer Jésus jusqu'au bout parce qu'il a refusé un amour divin qui, dans une séparation, enfante les petits-enfants. L'enfant ne peut pas vivre s'il ne se sépare pas de sa mère. L'amour ne peut être sans séparation, sinon il n'est qu'un rapport fusionnel immature. C'est ainsi que Pierre, après sa chute, deviendra saint. À la fin, néanmoins, tu viendras. Alors, comme je l'ai annoncé, on regarde aussi le chemin de Judas. Évidemment, ce n'est pas un chemin de sainteté. Se mettre au-dessus de Jésus, c'est littéralement lever contre lui son talon. Jésus dit: « Celui qui mange avec moi le pain a levé contre moi son talon. » Si Jésus accepte encore l'amitié de Jésus, il mange de son pain, il n'est plus pur. Son cœur est mélangé. Sans doute veut-il rendre service, mais il n'obéit plus à Jésus. Il prétend être au-dessus de lui. L'impureté, c'est ce mélange. Jésus n'est pas dans l'esprit de sainteté et la trahison n'est pas loin. Jésus, surmontant son trouble, annonce la trahison de l'un des douze. C'est alors la sidération et l'effroi chez les disciples. Pierre demande aux disciples bien-aimés de demander qui. La réponse semble n'être entendue que par ce disciple. Et c'est la première fois que l'on parle du disciple bien-aimé. L'amour de ce disciple est un réconfort pour Jésus. Le geste de Jésus n'est pas une dénonciation, mais un ultime geste d'amitié. Et Jésus trempa le pain et en donna à Jésus. Et Jésus trempa le pain et en donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et après le pain, alors Satan pénétra en lui. Judas n'était pas prédestiné. Il était voleur. Il volait l'argent et plus profondément encore, il cherchait à dérober la vie, la gloire et la force qu'il n'a pas demandé à son Créateur. Vous savez, on ne cherche pas seulement à voler de l'argent dans la vie. On cherche parfois à voler la gloire et la force. Mais cela, il faut le demander au Créateur. Et son péché, non regretté, le rend maintenant littéralement possédé par Satan. Vous voyez la différence avec Pierre. Pierre regrette son péché, dit « Mais alors lave-moi les mains et la tête. » Judas ne regrette rien. Jésus est le maître de la situation. L'auteur du livre de la sagesse se demandait pourquoi Dieu n'avait pas anéanti l'Égypte au moment de l'Exode, la première Pâque. La réponse est formulée ainsi. « Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. Tu aimes en effet tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Mais tu épargnes tout parce que tout est à toi, maître, ami de la vie. » Livre de la Sagesse, chapitre 10. en épargnant sciemment Judas au seuil de son ultime Pâques. Jésus confirme ce que l'auteur de la sagesse avait déjà perçu. Mais il y a une différence. Jésus ne fait pas un discours sur Dieu. Jésus vit cet amour à la première personne et demande aux disciples d'aimer comme lui. Il est l'agneau de Dieu, celui qui emporte le péché du monde, comme le bouc émissaire chargé des péchés et lâché dans le désert le jour des expiations. Or, concernant le jour des expiations, le Yom Kippour, il est aussi écrit « Le Seigneur Dieu parla à Moïse et dit « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez au Seigneur Dieu des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant le Seigneur, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Alors que Pierre est prompt à s'humilier, « Lave-moi aussi les mains et la tête », Judas ne s'est pas humilié. Il n'a rien offert en expiation. La conséquence ne se fait pas attendre. Judas aussitôt sortit. Il faisait nuit. Judas s'est retranché du nouveau peuple formé autour de Jésus. Voyons maintenant le commandement nouveau. Le disciple qui suit l'exemple de Jésus perd le tempérament commun, si prompt à dominer et à exploiter le prochain. Il acquiert un tempérament agréable, aimable, pénétrant, digne. Et d'une simplicité enfantine, le lavement des pieds était fait par les esclaves ou par les enfants. Moi, en effet, je vous ai montré l'exemple. De la façon dont moi, j'ai agi envers vous, vous aussi, agissez de même. Quelque chose de la façon dont Dieu règne est ici manifesté. Le service auquel Jésus engage son disciple change l'horizon et ouvre l'immense espace de la relation gratuite, dévouée, aimante. Jésus dit alors, « Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. » L'expression « petits enfants » est remarquable. Dans le royaume, nous serons tous petits. Tous se reconnaissent comme frères et sœurs, tous sont unis en Dieu, Père. Je vous donne un commandement nouveau. Soyez brûlants d'amour les uns pour les autres. Comme moi j'ai brûlé d'amour pour vous, vous aussi, brûlez d'amour les uns pour les autres. Seul Dieu peut donner un commandement nouveau. Jésus est le Fils de Dieu, comme Jean-Baptiste en avait témoigné. Et comme Marthe l'avait confessé, je crois que tu es lui, le Messie, le Fils de Dieu, qui vient pour le monde. Voyez comme c'est beau. Allez, on termine. Septième perle, il n'est pas facile pour les disciples d'abandonner Jésus à sa mission au moment de son arrestation. Jésus intervient pour que Pierre accepte le chemin de la sainteté qui consiste à laisser Jésus être notre sauveur. Vous savez, Pierre qui essaye de trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre, eh bien Pierre doit laisser Jésus partir enchaîné et passer le gué. Et dernière perle, le tombeau est vide. Il n'y a plus de cadavre ni rien de mort. La trace du péché cruel du monde sur le cadavre du crucifié est remplacée par la trace de l'amour vivant sur le suaire. Le chemin de la sainteté est ici la course du bien-aimé, la course du disciple attiré par ce signe ineffable et qui revient tout illuminé par la foi. Voilà, mais vous avez vu cet enseignement sur le chemin de la sainteté. Quel pastoral extraordinaire. Jean vraiment à l'école de la Vierge Marie, nous a composé un bijou de filet, une formation profonde et en même temps simple. Et vous voyez que ce fil a effectivement, objectivement, des échos, qui a une vraie composition. Donc tout ceci est publié dans le livre Françoise Brenard, Breynaert, Jean, l'Évangile en filet, aux éditions Parole et Silence. Retrouvez aussi sur mon site internet foi-vivifiante.fr. Merci, au revoir. Alors, la fois prochaine, on fera le deuxième fil vertical. Au revoir, merci, à bientôt.